Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue.
Merci. Merci de me donner la parole, c'est gentil ça.
Ah ben ça est le principe un peu de l'émission.
Oui,
hein.
Oui, je pense bien.
Donc vraiment, vous êtes le bienvenu. Alors depuis, je crois que depuis un mois, c'est un peu compliqué pour vous, Pierre.
Très, oui, c'est devenu très compliqué, oui. C'est que, il y a un mois, pratiquement pile poil, j'ai été séparé de, on va dire, de force de ma femme. Parce que, un peu avant Noël, je me suis un peu emporté sur des objets, parce que, on a eu une dispute.
Oui.
Et elle a été apeurée, elle a fait part de ses trucs à une amie qui a cru bon de prévenir la gendarmerie, et puis la gendarmerie l'a convoqué, ma femme, à témoigner. Et donc, moi, je l'ai conduite à la gendarmerie et du coup, j'ai été entendu aussi dans la foulée et mis en garde à vue.
Voilà. Ah oui.
Deux jours de garde à vue.
48 heures, d'accord.
48 heures de garde à vue. Et puis, dans la foulée de la garde à vue, j'ai tout de suite été présenté à un juge le lundi. Mmh. Au procureur et puis après un juge, oui, voilà. Et j'ai écopé de 3 mois de prison avec sursis, plus 12 mois de mise à l'épreuve, donc et séparation. Donc elle a été, pendant que j'étais en garde à vue, elle a fait ses bagages à la maison et puis elle a été prise en charge par une association pour les femmes battues ou en danger en tout cas. Voilà. Et puis depuis, je vous assure qu'elle me manque. Et puis que le fait de ne pas savoir où elle est exactement, parce que ça m'est interdit de la contacter, de la voir, de lui parler, de quoi que ce soit.
Voilà. C'était la première fois que ça se produisait
C'est la première fois que... c'est des petites altercations dans un couple. Ouais. Faut vous dire que toute l'histoire, ça date d'il y a 8 ans. Mmh. Donc, il y a 8 ans, j'ai connu cette femme. C'est une femme camerounaise. Je l'ai connue là-bas sur place. Mmh. Et puis, on a mis 8 ans, 7 ans pour se marier. Je me suis marié là-bas sur place à Yaoundé, en 2019. Et puis après, depuis fin août 2020, elle est enfin arrivée en France parce que la validation du mariage a pris du temps. Donc tout ça, on était très contents. Et moi, j'étais depuis 2 ans en arrêt maladie suite à une dépression. Et je prenais des médicaments. Et du moment qu'elle est venue, j'ai arrêté mon traitement avec l'accord de mon médecin qui me suivait. Et puis, j'aurais pas dû. C'est clair. Parce que mes nerfs m'ont submergé. Parce que je suis pas du tout coutumier du fait. Je suis quelqu'un de plutôt pacifique. J'aime les gens. Mais bon, là, je me suis emporté. Et puis aujourd'hui, j'ai des regrets, quoi.
Oui.
Parce que là, pour l'instant, ne pas savoir ce qu'elle devient, ce qu'elle pense, ne rien savoir de ses
elle
projets.
Elle a eu peur. Elle a eu très peur, certainement.
Elle a eu peur.
Parce que vous dites que c'est une amie qui lui a conseillé de faire cette démarche, mais.
En fait, c'est cette amie même qui a fait les démarches. Donc,
oui, mais parce après, qu'elle lui avait raconté aussi ce qui s'était passé.
Elle lui avait raconté, oui.
Et elle a dû avoir très peur, votre épouse.
Oui, c'est sûr.
Donc, pour le moment, de toute façon, si j'ai bien compris, la justice a ordonné 12 mois d'éloignement, c'est ça ?
12 mois d'éloignement, oui.
Donc,
oui. C'est peut-être aménageable avec le temps, dans 2-3 mois.
En attendant, pour vous, il ne vaut mieux que vous n'ayez pas de contact avec elle, parce que ça se retournerait contre vous. Oui.
Je m'y tiens, alors que ça me coûte. Hein. Parfois, il y a des doigts qui me démangent sur le clavier pour l'appeler, pour lui parler, quoi.
Vous vous en voulez?
Je m'en veux, oui, je m'en veux de m'être emporté, je m'en veux énormément. Et puis d'ailleurs, toutes ces déclarations, j'ai rien réfuté parce que la faute était de mon côté, quoi.
Oui. Oui.
Et puis donc, comme cette femme est camerounaise, donc elle a, on l'a fourrée dans une chambre d'hôtel ou de je sais pas quoi.
Pas seulement pour ça, vous savez, malheureusement, les femmes qui sont victimes de violences, on manque de structures d'hébergement. Je ne sais pas où vous vous trouvez, mais c'est pas le fait qu'elles soient camerounaises. Il y a des femmes de toute nationalité, des femmes françaises, qui se retrouvent hébergées dans des hôtels via les associations pour les protéger.
Oui, oui, oui.
Vous voyez, c'est pas du tout lié.
Mais ça me pèse, ça, de la savoir, parce que moi je sois puni. Allez, bon, on est d'accord. J'ai pris sur moi, j'ai fait une bêtise, je me suis emporté, c'est pas bon. Mais elle est punie aussi d'une certaine façon. Parce que.
Ça, elle seule pourrait dire, au fond, comment elle le vit, cette situation.
Bah, j'ai des nouvelles de elle par une amie qui est restée en contact, parce que j'ai le droit d'avoir des nouvelles. J'ai pas le droit de la contacter personnellement. Une amie commune a pris contact avec elle. Alors elle dit qu'elle pleure beaucoup, qu'elle est désemparée.
Elle n'a pas de famille. Enfin, des amis là.
Mais... Elle n'a personne ici. Bon, on a des amis communs, un couple en particulier, chez qui on était d'ailleurs à ce fameux Noël.
Ah, vous étiez chez des amis lorsque ça s'est passé.
Chez des amis et... Non.
Qu'est-ce qui a déclenché d'ailleurs votre colère comme ça, le fait que vous ayez perdu pied, si c'est pas indiscret? Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là?
Des bêtises, La situation financière est prétendue, donc là, toutes ces opérations pour venir ici, le billet d'avion, le visa, tout ça, l'installation, ça a coûté cher. Moi, je suis presque retraité là.
Oui. Donc, elle est plus jeune que vous, elle?
Elle a 16 ans de moins.
D'accord. Donc vous étiez inquiet, préoccupé par rapport à votre... situation financière.
Les finances n'allaient pas, ne vont pas bien, donc il faut qu'on se débrouille. Et puis je l'entends au téléphone le soir, elle dit parce que comme toute femme africaine qui se respecte, elle n'aime pas ses cheveux.
Enfin, ça, on va peut-être pas généraliser. Il y a tout un mouvement justement de femmes d'origine afro qui maintenant laissent leurs cheveux libres à l'état naturel et qui sont très belles en plus.
Ben moi j'aurais aimé, mais elle refuse parce que elle dit que voilà.
Ah mais ça, il y a des stéréotypes malheureusement, y compris sur la couleur de la peau, sur les cheveux qui doivent être lissés. C'est bien qu'il y ait ce mouvement d'ailleurs qui montre qu'il y a des beautés noires.
Elle n'aime pas être noire, elle n'aime pas avoir les cheveux crépus, Elle dit mais si j'avais voulu une blanche, je serais resté ici quoi. C'était ça. Moi ça me dérangeait pas quoi.
Et alors donc elle parlait au téléphone.
Au téléphone avec une copine camerounaise à mon avis, parce que de temps en temps ça parlait dans leur langue africaine. Et puis tout à coup je l'entends dire, écoute, je prends le train et j'arrive chez toi. Alors moi le train, ça m'a interpellé parce que elle ne connaît personne ici dans la région. Donc le train, ce serait pour aller dans la région parisienne ou à Orléans, Tours, 500-600 kilomètres de chez nous. Et je lui ai dit, écoute, dis-moi où tu veux aller. Ouais, mes cheveux, c'est important. J'ai dit, oui, mais moi, il faut que je change de lunettes. Ce serait important aussi. Et puis tout à coup, ça m'a submergé parce qu'elle ne m'écoutait plus. Et puis voilà, donc je me suis emporté.
Mais vous avez porté des coups sur elle?
Non. Non.
Parce qu'elle est lourde quand même, la peine. Enfin, c'est pas anodin. Oui, Trois mois de prison avec sursis, 12 mois d'éloignement pour juste, entre guillemets, des objets cassés. Ça me paraît peu. Je ne suis pas juriste, hein, mais...
Non, mais je vous le dis à vous aussi. Je le dis à tout le monde qui veut l'entendre. Je n'ai jamais porté de coups sur une femme et ça n'arrivera pas. Parce que moi, le jour où je porterai des coups à une femme, je suis concrètement plus un homme. Ça, c'est fini.
Mais comment vous le vivez? Parce que je comprends en même temps que quand vous m'avez présenté les choses, vous avez presque un peu, banaliser en disant bon, y a quand même les sanctions qui sont là, qui sont assez lourdes compte tenu de ce que vous évoquez. Bah... Vous parlez de bêtises. Au-delà de ça, parce que nous ici, on n'est pas, moi je suis pas juge, c'est pas un tribunal, l'émission. Mais voyez, vous dites, évidemment, je comprends que cela vous rassure de dire jamais je ne lèverai la main sur une femme. Mais au fond, vous dites vous-même que...
Il ne faut jamais dire jamais.
Eh oui, vous avez été débordé, comme parfois, malheureusement, ça peut arriver, par une colère, par de la frustration, par quelque chose qui... Alors, vous parlez aussi de cette fragilité que vous aviez. Depuis 2 ans, vous étiez suivi pour dépression, ces problèmes financiers, enfin, bon, des tas de choses qui font que ça met les nerfs à rude épreuve, comme on dit, un peu.
Et puis, vous savez, dans la culture africaine, un homme n'est pas faible.
C'est-à-dire
ça aussi. Ben, elle n'a pas vraiment compris ma maladie. Elle dit souvent quand j'avais des réactions qui lui plaisaient pas et que je disais mais écoute excuse-moi mais ça va pas, j'ai une maladie. Oui mais tu te réfugies dans ta maladie et puis ça, j'ai dit mais non c'est une vraie maladie. Chez eux ils disent c'est une maladie de blanc. Voilà. Ça doit sûrement exister.
Bien sûr que ça existe sur les dépressions, mais c'est vrai que l'approche est différente selon les cultures aussi.
Oui, oui.
Hein, donc,
Et puis un homme faible, ça...
Elle attendait pas... Enfin, d'abord, être en dépression, c'est pas être faible. Il y a une fragilité. La dépression, c'est une maladie. Peut arriver comme tout un chacun. Donc, quelqu'un qui a une maladie, et qu'elle soit d'ordre psychique, ça ne fait pas de lui quelqu'un de faible. D'abord,
Moi, ça m'est tombé dessus comme ça, comme un éclair.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, ma vie, il y a eu des tas de choses qui se sont passées dans ma vie. Donc déjà, cette difficulté pour la faire venir en France. On a jardiné, passez-moi l'expression, on a jardiné pendant 8 ans pour qu'elle puisse venir.
Et oui, c'est ça, c'est très long. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous auriez pu, finalement, le recours a été d'aller vous marier à Yaoundé, c'est ça, pour qu'elle puisse...
Oui, mais j'arrivais pas à rassembler tous les papiers nécessaires pour faire. Et puis ça, jusqu'à ce qu'on arrive enfin en 2019 à se marier là-bas sous le régime camerounais. Après, ça a mis encore pratiquement 1 an à être validé dans le droit français. La Covid s'étant invitée là dans la danse, toutes les administrations, tout a été ralenti. Les papiers sont arrivés en mairie dans notre petit patelin pratiquement le jour du premier confinement. Donc les bureaux fermés, rien à récupérer, rien à faire. Et donc le jour où j'ai pu faire ça, c'était en juillet, j'ai enfin pu lui envoyer les papiers.
D'accord.
Et là, elle a pu faire son visa.
Oui.
Et...
Elle est arrivée fin août, là, c'est ça, fin août 2020.
Fin août, oui, fin août 2020. Et donc, on a vraiment vécu. Et puis, le problème aussi pour elle, elle cherchait du travail.
Oui. Dans quel domaine, en fait?
Elle a pas grand-chose comme formation.
D'accord.
Donc, c'est une femme vaillante. Hein.
Oui.
C'est quelqu'un qui elle m'a toujours dit, si je viens en France, je vais faire ce qui se présentera. Maintenant, avec les différents confinements en restauration, là, c'est niette.
Oui, c'est ça.
Elle voudrait aller dans le service à la personne, dans le ménage, dans les choses comme ça. Mais tout ça, c'est au ralenti.
Bien sûr. Bien sûr.
En plus, nous, on habite dans une petite ville de 5000 habitants, donc, puis j'ai pas de voiture, elle n'a pas de permis de conduire. Si, elle en a un, elle a un permis de conduire camerounais, mais qui n'est pas,
transcriptible
dans le droit.
Je comprends. Oui, donc, au fond, entre les rêves que vous avez pu faire ensemble et la réalité, vous avez un peu déchanté, finalement.
Oui, elle a déchanté aussi, et puis elle a laissé ses enfants sur place, et puis une fois ici, elle a remarqué que ça lui manquait.
Ah bon, mais ils ont quel âge, ces enfants?
Il y en a un qui a 28 ans et le plus jeune a 14 ans. Donc ça lui pèse. Et puis on avait le projet de le faire venir le jour où ça irait un peu mieux.
Oui.
Mais bon, après 4 mois, c'est court, c'est long et c'est court en même temps.
Il est resté avec son père,
il est
ce
resté
jeune garçon.
Avec son frère et puis avec la grand-mère.
D'accord.
Les pères des enfants ne sont plus là.
D'accord.
Elle a élevé ses enfants toute seule.
Et elle vivait à Yaoundé?
Elle vivait à Yaoundé. Oui.
Elle était déjà venue en France ?
Non, jamais, non. Jamais, parce que c'est très difficile pour ces gens de venir en France. D'obtenir des
oui,
visas.
Oui, hormis si effectivement il y a parfois quelqu'un a déjà. Alors, en oui. plus, comme vous dites, c'est compliqué d'obtenir des papiers. Vous vous êtes mariée pour lui permettre de venir plus facilement. Mais là-dessus, voilà. vous êtes arrivée. Elle est arrivée. L'épidémie commence
oui,
à redémarrer, quoi, finalement.
Ça a tout faussé. Oui, oui, oui. oui
en
oui.
octobre. Mais pour elle aussi, entre les rêves que vous aviez ensemble, tout ce qu'elle a pu projeter et la réalité, ça a dû être rude, au fond.
Ben oui,
enfin, ça a dû peser moi, sur votre relation, tout ça.
Et moi aussi, je projetais ouais. des choses sur elle. Qui
oui.
sont... Moi, je pense qu'on s'est perdu, de vue, même en un espace très court. Quatre
oui.
mois, c'est rien, toi.
Mais c'est rien parce et que... c'est beaucoup, finalement. C'est vrai que c'est très peu, mais dans un quotidien qui devient difficile, parce qu'en plus, il y a des problèmes financiers, elle ne trouve pas de travail, ses enfants lui manquent.
Oui. Le mari qui commence à déjà...
Qui vous n'alliez pas très bien par moment.
Le mari qui commence à dérailler parce que il avait arrêté son traitement. Hein. Moi, c'était ça le truc.
Mais depuis... vous en aviez parlé d'ailleurs. Vous l'aviez arrêté progressivement, ce traitement
Non, j'avais un traitement relativement léger. Donc, en bonne entente avec mon médecin psychiatre qui
oui.
me suit depuis
oui.
deux ans.
Oui.
En été, j'y suis allé deux, trois fois. Et puis, il m'a dit, écoutez, je vous vois, vous êtes bien là. Si vous voulez, vous pouvez arrêter le traitement. J'ai dit oui. Normalement, mon antidépresseur, il arrivera par avion là. C'est ma femme qui va me servir de ça. Mais non,
et c'est risqué. C'est toujours ouais. risqué de faire reposer son équilibre au fond psychique sur quelqu'un. Je comprends. Oui. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtraient de se dire, ma femme arrive, on va démarrer quelque chose, je ne serai plus seule dans un quotidien, ça va me faire du bien.
Oui.
Mais vous avez omis aussi quelque chose d'important, parce que vous étiez tout à votre enthousiasme, certainement, d'enfin vous retrouver. C'est qu'elle, c'était aussi de son côté un très gros bouleversement. D'être coupé de son environnement habituel, de se trouver sans travail, donc un peu inactif, qui favorise l'ennui. Là-dessus viennent se greffer des problèmes financiers, vous qui n'étiez pas très bien. Enfin,
oui.
vous voyez, tout ça qui s'accumule, évidemment, ça fait un cocktail un peu dangereux.
Mais ce qui m'a perturbé, moi, ce qui m'a fâché, quelque part, maintenant c'est fini. La chantilly est retombée, là, c'est fini, le soufflet est retombé, hein, c'est fini. Mais parce que moi, j'ai fait plusieurs voyages là-bas.
Oui, c'est ça. Dans quelles circonstances vous l'aviez rencontrée, cette jeune femme?
Sur Internet, on discutait, d'accord. elle cherchait quelqu'un, elle cherchait en Europe. Et puis on s'est trouvé comme ça par hasard. Moi, je surfais aussi sur pour regarder des
oui,
choses.
Oui, mais c'est pas banal d'aller, parce que vous cherchiez quelqu'un, c'est une chose, mais évidemment, même si vous êtes tombé amoureux, c'est toujours plus compliqué au fond
oui.
quelqu'un qui.
Ah ben, c'est clair que c'est le. Et puis un jour justement, je lui ai dit bouge pas, j'arrive. Et puis j'ai voyagé là-bas.
Ah,
et
c'est
puis,
pour ça que vous y êtes allé. Oui, c'était pas pour le travail, c'était pas.
Non, pour aller la voir. Pour aller la voir. Mm-hmm. Et puis, ce qui s'est passé, d'abord, je suis tombé amoureux de cette femme.
Oui.
C'était assez rapide parce que, on avait les mêmes idées. Et puis, je suis arrivé dans ce pays.
Oui.
Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai regardé autour de moi et moi, je suis chez moi là-bas.
Vous vous sentiez bien?
Ah, moi, je suis au point où je voudrais m'installer là-bas
à
terme. Ah oui, oui, oui. Alors que concrètement, il n'y a rien par rapport à ici, le confort et tout ça, mais non. C'est que quand on me racontait parfois la magie de l'Afrique,
oui.
moi je l'ai ressenti.
L'hospitalité, finalement.
L'hospitalité, la façon de vivre, la façon de voir les choses.
Alors finalement vous n'avez pas envisagé de d'y aller la rejoindre? Ça aurait été plus simple.
Elle aurait dû attendre encore. C'est ça, parce que moi,
pourquoi
j'attendais ma retraite, parce que je suis pas encore tout à fait retraité.
Vous êtes en arrêt maladie, là?
Ils m'ont mis en invalidité. Donc, cette invalidité m'a aussi réduit drastiquement mes revenus. Parce qu'en arrêt maladie, j'avais les indemnités journalières, et puis maintenant...
Et vous dites, vous êtes en invalidité suite à votre dépression ?
Suite à la dépression,
et ça,
oui.
Et vous dites, elle vous est tombée dessus, comme ça ? Il n'y a pas...
Ah ben, comme ça, oui.
Oui. C'est-à-dire qu'un jour, vous vous êtes réveillé, vous n'aviez plus aucune énergie.
En rentrant du travail, ma voiture a cassé, je l'ai abandonnée dans un garage, et je suis rentré à pied... Et puis j'ai ruminé les idées noires. Et puis je suis allé consulter mon médecin généraliste qui m'a dit, mon vieux, tu es en danger, va voir le... Il m'a donné l'adresse d'un psychiatre dans la même ville.
Il a bien fait, oui.
Et puis voilà, j'ai pris les devants parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur.
Peur éventuellement de commettre un geste fatal.
Ah oui. Oui, j'ai eu peur.
Oui, c'est-à-dire cette voiture cassée, c'était presque une parabole un peu de ce qui vous arrivait, comme si était à l'arrêt, là.
Tout s'arrêtait.
C'est la solitude qui vous pesait, c'était...
La solitude me pesait de toute façon, mais bon, la solitude, on palliait un peu avec... on discutait beaucoup sur Skype, on se voyait. Et puis j'avais fait cinq voyages là-bas, donc tous les ans j'étais...
Vous êtes réfugié dans ce... C'est ça, c'est devenu un refuge au fond, ce qui n'allait pas dans votre vie là. Vous avez beaucoup projeté sur cette femme.
Dans ma vie ici, tout seul, moi, ma famille m'a abandonné. Mais pourquoi, je ne sais pas.
Votre famille, c'est-à-dire...
Ma mère, ça fait depuis des années que ça ne marche pas.
Oui.
Mes enfants m'ont laissé tomber, carrément.
Ah bon?
Voilà, mes sœurs, j'ai deux sœurs, plus rien.
Et vous n'avez pas essayé de retisser des liens, peut-être avec vos enfants? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais avec mes enfants, vu que y en a un qui a des graves, qui a aussi des problèmes un peu, qui a eu des problèmes psychiatriques déjà. Et donc. Mais moi, je ne l'ai jamais rejeté. Je n'ai jamais rejeté aucun de mes enfants. On a eu un divorce, évidemment. Oui. Donc, les enfants du divorce, évidemment, ils en prennent plein la figure toujours. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas les premiers ni les derniers.
Et oui, puis, c'est le divorce qui a fait un peu exploser votre famille et les relations.
Oui. Et puis, ma mère n'a pas compris le divorce. Ma mère, c'est qu'elle est veuve depuis qu'elle a 44 ans. Donc, voilà.
Et finalement, elle vous en a voulu de ce divorce.
Elle m'en a voulu. Elle m'en a voulu du mariage. Elle m'en a voulu du divorce. Oui. Elle m'en a voulu du remariage.
C'est pas récent, les problèmes avec elle. Tout ce que vous faites, ça ne va pas.
Oui, tout ce que je fais, ça ne va pas.
Il y avait une grande solitude aussi chez vous, finalement.
Oui, je pense, oui. Oui.
Parce que vous, c'est vrai que la dépression, soit il y a des signes avant-coureurs, parfois ça s'installe un peu progressivement par au départ une grande fatigue, une lassitude, une difficulté au fond, tout est ralenti dans la dépression, aussi bien sur le plan moteur que psychique, et soit parfois ça démarre, on retrouve pas d'antécédents. Ça, ce que vous dites, un jour votre voiture se casse, vous l'amenez au garage et puis là, tout d'un coup, c'est vous vous sentez envahi d'idées noires.
Tout tombe dessus, oui.
Bon, alors vous avez bien fait de consulter votre médecin qui vous a tout de suite orienté.
Je ne vous parlerai pas là, si je l'avais pas consulté, je serais plus là.
Et aujourd'hui, est-ce que vous l'avez revu, ce psychiatre, depuis ce qui s'est passé ?
Je le revois régulièrement.
Vous le revoyez. Qu'est-ce qu'il en dit, lui, qui vous connaît,
depuis que ça s'est passé, je l'ai vu une fois et j'avais emmené ma femme avec. C'était avant qu'on soit séparés.
D'accord.
Et maintenant, avec ma condamnation et
lié
une obligation de soins.
Oui. Vous avez, une obligation de soins ?
Ah oui, j'ai une obligation de soins.
C'est bien. C'est bien.
Et puis, je, de toute façon, même sans obligation, je continuais avec lui. Malheureusement, bon, là, il s'est fait opérer. Donc, il est absent pendant un moment. J'ai continué avec sa femme.
D'accord. Oui, elle a pris le relais,
J'ai d'ailleurs rendez-vous avec elle demain matin. Donc, il faut que je continue D'ailleurs, il faut que je présente des certificats comme
au
quoi
juge.
Je me fais suivre. Au juge, oui.
Mais est-ce que vous en ressentez le besoin? Au-delà de l'obligation.
Oui. Oh là oui.
Vous avez besoin de parler.
J'y, sans obligation, j'y irai aussi.
Vous y retourneriez.
C'est pour ça que je me suis permis aussi d'appeler l'émission, là, donc, parce que je l'écoute de temps en temps.
Oui. Vous avez bien fait. Il faut vraiment, parce qu'il y a, pour le moment, bon, vous ne pouvez pas la voir, et je comprends que ça soit difficile pour vous, parce que il y a aussi ce, vous vous en voulez, vous aimeriez pouvoir vous expliquer avec elle, mais vous ne pouvez pas, et ça se retournerait contre vous. Donc, vous ne pouvez que vous occuper de vous. Comme vous dites, vous vous êtes cru un peu prématurément guéri parce que vous pensiez que cette femme allait au fond tout réparer, mais dans votre histoire il y a beaucoup de ruptures de liens et pas n'importe quel lien. Vous me parlez quand même de ce divorce qui a amené à une explosion de la famille, de vos liens avec vos enfants. Alors même si vous rêvez d'une autre vie qui viendrait tout réparer, ça pèse ça dans la balance. Il y a la relation à votre mère, il y a le fait que par rapport à tout ce que vous aviez projeté de cette histoire, eh bien, le retour en France a été bien difficile. Mmh. Et il y a beaucoup de désillusions, finalement.
Oui, quelque part, c'est ça, oui.
Il y a beaucoup de désillusions.
Et maintenant, j'en suis au point où je me demande s'il y a quelque chose à réparer, parce que je ne sais absolument rien de ses intentions.
Ce qu'il faut réparer, déjà, c'est à votre niveau. Parce qu'il y a des choses à réparer en vous-même.
À mon niveau, par exemple, si on doit se retrouver, le schéma sera complètement différent parce que ça m'a fait un choc énorme.
Pierre, j'entends ça, que ça fait un électrochoc et de fait, ça a été suivi par la justice.
Évidemment.
Oui, mais vous êtes attention à ne pas à nouveau. Vous savez, parfois quand ça va mal dans sa vie, eh bien, on en rêve une autre. Et on se réfugie dans un rêve. Et bon, il n'y a pas lieu d'en blâmer quiconque. Parce que surtout en ce moment, dans le contexte, ça fait du bien de rêver, d'essayer de cultiver l'espoir. Mais le risque, c'est qu'à nouveau, là, au fond, ce travail, il est important à faire pour vous. Il y a quelque chose à réparer. C'est intéressant, cette voiture qui est cassée, qui marche plus, qu'on met au garage, qu'on relègue au garage, comme si on pouvait plus rien en faire. Il y avait quelque chose de cassé aussi en vous, depuis un moment. En tout cas,
c'était sur le point
de se tendre, et à un moment, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et pour le moment, vous ne pouvez pas l'approcher, la voir, mais vous pouvez prendre soin de vous, et réparer ce qui est douloureux en vous. Et vous verrez bien quand vous irez mieux.
Oui, je le verrai, oui.
Vous n'en êtes pas à quelques semaines et à quelques mois près.
Mais vous savez, là, ça fait 30 jours, là, 31 jours, mais j'ai l'impression que ça fait 3 ans. C'est ça.
Oui, mais attention avec ça, parce que...
Parce que j'ai pas de vrai travail non plus, j'ai un petit boulot.
Je sais bien.
Qui m'occupe quelques heures
je sais bien. Temps. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail?
Moi, j'étais dans la...
Oh, je vous perds là, je vous entends plus, Pierre.
J'étais dans la viticulture.
Ah, c'est un beau métier, ça.
Oui, c'était un beau métier, oui.
Et vous ne pouvez plus reprendre là. Vous me dites que vous avez un petit boulot
J'ai un petit boulot, je conduis des enfants à l'école avec une petite voiture qu'on m'a donnée là. Donc voilà, ça m'occupe
bon,
3 heures par jour.
Oui, bah c'est bien. C'est déjà ça.
Ça me sort, oui.
Ça vous sort. Vous avez un peu, vous, des amis? Vous me parliez d'amis de couple sur qui vous pouvez un peu vous appuyer?
Oui. Ça, une amie, une femme qui a travaillé avec moi, qui a travaillé pour moi quand j'étais agriculteur, qui est restée amie.
Ne bougez pas trop, parce qu'avec votre téléphone, par moment, je vous entends mal.
Oui. Non, c'était une femme qui est restée... D'ailleurs, c'est la seule femme que j'ai en ami, vraiment ami.
Bah, c'est bien d'avoir déjà quelqu'un auprès de vous.
Et puis j'ai encore un autre couple, mais qui est un peu loin. Mais bon, voilà. Et vous savez, quand on divorce, j'ai divorcé deux fois, en fait. Et quand on divorce, tout à coup, dans tous les problèmes de la vie, dans tous les accidents de la vie, il arrive un moment où on compte les amis sur les doigts d'une main. Et on n'a même pas besoin de tous les doigts.
C'est vrai que c'est une conséquence des divorces. Souvent, évidemment, ça pèse aussi sur les relations amicales. Il y a beaucoup d'amis qui se détournent.
Mais ceux qu'on perd, à la réflexion, on se dit,
voilà, tant pis, c'est dommage.
Vous en gagnerez d'autres. Mais pour le moment, il y a tous ces liens. Il y a beaucoup de ruptures dans votre histoire. Mmh. Et vous savez, là, je sais bien que pour le moment, c'est pas votre priorité, mais il y a peut-être des liens à retisser. Parce que, à un moment, quand je parlais de cette vie rêvée, quand la sienne, la réalité, ne nous satisfait plus, vous avez énormément misé sur ce mariage, sur cette femme. Peut-être tout, oui, mais trop. Parce qu'on ne peut pas... Vous savez, pour l'équilibre, c'est important d'avoir différentes sortes de liens. Et quand on mise tout sur le lien amoureux, d'une certaine façon, ça peut fragiliser. Parce que, évidemment, tant que le ciel est au beau fixe, c'est merveilleux, l'amour. Ça nous agrandit, ça nous amène à donner un peu le meilleur de nous-mêmes, ça nous donne confiance. Mais c'est toujours fragile. Parce que si on ne fait dépendre son équilibre psychique que sur un autre, cet autre, il peut venir à manquer pour plein de raisons, ou il peut décevoir. Et c'est important d'avoir, évidemment, l'amour, c'est très bien, mais des liens amicaux, des liens familiaux, parfois des connaissances aussi, qui peuvent s'avérer, au fond, plus riches qu'on ne le pensait, en cas de coup dur. Et dans le cadre de votre thérapie, il y a peut-être des choses aussi à réparer sur le plan de vos relations, notamment, je pense, avec vos enfants. Parce que vos enfants, vous l'avez dit, ils ont souffert du divorce. Et malheureusement, oui, le lien s'est distendu avec eux. Mais plutôt que de se dire, bon, il n'y a plus rien à faire de ce côté-là, je me construis une autre vie, il y a peut-être des choses à tenter quand vous vous sentirez plus solide. Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas en état de vous prendre un nouvel échec ou un nouveau refus. Mais c'est des pistes à explorer. Parce que là, j'entends bien quand vous me parlez, parce que c'est à chaud là, ça s'est passé il y a un mois. Et puis il y a votre culpabilité. Mais attention de ne pas avoir pour seul horizon que cette femme. Parce que la priorité, c'est de ce temps qui... Enfin, il ne vous est pas donné, il est ordonné par la justice, un an de mesure d'éloignement. Eh bien, au lieu de le vivre comme une punition, vous avez parlé de ça. Oui, bien sûr qu'il y a la sanction, on ne va pas le nier. Mais finalement, comme une possibilité de vous occuper de vous, véritablement, et de faire un peu le point sur vous, comme vous le faites, en étant accompagné et en vous donnant du temps. Parce que là, il y a certainement une possibilité qui vous est donnée de repartir sur de meilleures bases, et vous verrez bien ce qui sera possible. Mais il y a des choses à consolider, parce qu'il y a eu beaucoup de fragilité chez vous.
Oui, oui, oui.
Donc, accordez-vous ce temps, finalement. Ouais. Vous savez, il y a des gens, parfois, il faut qu'ils passent par la justice, par un rappel à la loi, pour avoir une injonction thérapeutique. Et la justice, dans ces cas-là, bien sûr qu'elle est là pour sanctionner quand il y a eu des faits commis, mais il y a aussi derrière une idée de réparation. Et au fond, c'est qu'on a entendu que chez vous, que vous n'êtes pas quelqu'un comme ça de violent, qu'il y a à un moment quelque chose qui vous a débordé dans votre situation personnelle. Et ce qui est au départ une injonction et ce qu'on vit comme une sanction, peut être aussi finalement une très bonne chose pour vous au final.
Ouais, pour évoluer, oui.
Pour évoluer. Sûr. Et on peut évoluer à tout âge. Accordez-vous ce temps, Pierre. Et vous verrez bien. Un an, finalement, c'est beaucoup et peu. Donc donnez-vous ce temps pour aller mieux.
Ouais, pour moi, c'est beaucoup. Mais non, c'est mais beaucoup, bon, je suis en relation avec le service de probation.
C'est ça, oui, voilà. Mais ça, bien sûr que vous devrez fournir des certificats. Et bien sûr, j'ai bien compris ça. Et oui, mais dites-vous aussi que ce travail, au final, il est pour vous. Bon courage, Pierre.
Merci, Caroline.
Au revoir.
Au revoir.
RTL.
Jusqu'à minuit 30.